demander pour cette excusée, mais également remercier de la messe et les organisateurs du séminaire d'avoir proposé au docteur Mélimèque de participer. Donc, je suis là aujourd'hui. Donc, évidemment, essayer de penser la science du genre sur l'enquête et donc ce qu'elle permet d'éclairer sur nos résultats et sur la façon dont on a mené notre travail est fortement intéressant. Donc, si je repense aux nombreuses discussions formelles et informelles qu'on a entre doctorants lors de nos réunions, et il est intéressant de voir qu'on, finalement, nous abordons fréquemment ce thème, alors même que nos sujets de thèse, nos approches et nos terrains, ou même la façon dont on perçoit l'anthropologie est complètement différente. Donc, c'est l'idée que finalement, ce thème, cette histoire de l'influence du genre sur la relation d'enquête et sur l'analyse, ressort d'une façon ou d'une autre et doit être pris en considération, et c'est ce que vous avancez aussi dans la conclusion. Quand on lit un ouvrage sur la réflexivité, la méthodologie, forcément, on en vient à penser à sa propre expérience, et donc à la façon dont on a accédé au terrain, à ce qui s'est passé sur le terrain et au savoir qu'on en a tiré, bien. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, quand on se pose la question, c'est difficile de détacher le fait d'être l'influence qu'a eu le fait d'être un homme, le fait d'être une femme, du reste des critères. Et c'est ce que l'ouvrage révèle bien, puisque par la multiplicité des situations, il nous montre que finalement, il y a un entrelacement des critères. C'est impossible de savoir, d'extraire le genre de façon pure, on va dire, mais il rentre aussi en considération le fait d'être une étudiante ou pas, le fait d'avoir un personnage, le fait d'être étrangère, etc. L'idée n'est donc pas, en fait, finalement, de savoir quel critère nous a le plus influencé ou le moins influencé, mais la façon dont l'ensemble de ces critères se déploient tout au long de la recherche et quelles conséquences ils ont. Donc Sylvie Bigot, à la fin, le souligne, elle a fait un terrain de recherche sur les escortes et leurs clients, et donc elle montre que ce qui nous intéresse finalement n'est pas tant la relation de séduction, enfin, de savoir si la relation de séduction qui se développe potentiellement entre l'enquêtrice et les enquêtés fausse le terrain et l'analyse qu'on peut en faire, mais plutôt de comprendre comment cette relation de séduction permet de comprendre la situation, ce que cela implique et qu'est-ce qu'elle produit pour la recherche. Donc, je voulais aussi souligner quand même l'état de l'art dans l'article introductif qui est très riche. En effet, c'est très intéressant parce qu'il y avait il y a beaucoup de littérature anglophone, comme vous l'avez dit, et donc là, ça vient combler aussi un manque dans la littérature française. Non, en fait, en lisant l'ouvrage, j'ai remarqué que les auteurs mobilisaient beaucoup les termes de visibilité, d'invisibilité ou encore de neutralité afin d'appréhender les différents enjeux qui traversent les relations d'enquête et notamment ceux en lien avec le genre de l'enquêteur et l'enquêtrice. Et donc, en fait, à travers la multiplicité des situations, on voit bien une variabilité assez étonnante des effets de visibilité et d'invisibilité du genre et des stratégies sous-jacentes à ces effets de visibilité et d'invisibilité. Donc je me suis amusée en quelque sorte à relever les différentes stratégies article par article et j'ai construit 4 catégories. Donc j'espère que vous allez me suivre. On voit que il y a certains articles qui vont rentrer dans plusieurs catégories. Mais c'est parce que ça montre, comme vous l'avez souligné, que comme on fait des terrains sur un temps long, des fois on change de stratégie en cours de route ou même au cours d'une même situation. Donc, la première catégorie regrouperait en fait les situations d'enquête, les relations d'enquête dans lesquelles le genre du sociologue ou de l'anthropologue passe au second plan, entre guillemets. Finalement, il devient invisible du fait de la situation d'enquête. C'est le cas d'Isabelle Malon, qui dit que finalement, elle n'a pas questionné le fait d'être une femme dans la maison de retraite, puisqu'elle était dans un environnement surféminisé, nous dit-elle, et donc elle était une femme parmi les autres femmes. C'est le cas également de Pierre-Noël Demiel, qui nous explique qu'il a fait un terrain sur les entrepreneurs de marque tunisienne, et qui nous explique que finalement son statut d'homme passait au second plan face à un statut d'étranger et d'universitaire. Ou en tout cas, ses interlocutrices faisaient la différence du fait de ce double statut d'étranger et d'universitaire entre cet homme-là et les autres hommes de leur famille ou des potentiels concurrents. La deuxième catégorie, ce serait les situations dans lesquelles les chercheurs et les chercheuses tentent de minimiser l'impact de leur appartenance sexuée. Donc finalement, essayer de gommer les effets de leur masculinité ou de leur féminité. Donc c'est le cas de Marie-Hélène Lechien qui fait donc un terrain au privé et qui nous parle de neutralisation du féminin. De Geneviève Pouvol qui nous fait un terrain sur la police et qui nous parle de déféminisation partielle. Anne Sauter, quant à elle, dit qu'elle doit devenir comme un joueur de rugby. Ou encore Jasmina Stekanovic qui doit être un marin comme les autres. Donc il y a deux exemples, hein, mais je vais m'arrêter. Dans la troisième catégorie, ça regrouperait les situations dans lesquelles en fait le fait d'être une femme ou un homme a des conséquences du point de vue de l'enquête, mais finalement cette caractéristique s'efface ou tout du moins se dissout dans une dichotomie plus vaste. Je m'explique, ce serait être un ami ou un ennemi de la police dans le cas de Geneviève Pruvot, supporter ou ne pas supporter les égouts dans le cas d'Agnès Jean-Jean, être du côté des détenus ou être du côté des gardiens dans le cas de Marc Dessin et Marie-Hélène Lechien, ou enfin être favorable ou défavorable à certaines formes de sexualité, de pratiques sexuelles dans le cas de Philippe Combessier et Sylvie Bigot. Donc finalement ici on assisterait moins à une invisibilité ou à une euphémisation du masculin ou du féminin, mais plutôt à une euphémisation de certaines revendications ou de certaines positions politiques. Et en fait, c'est intéressant parce que de façon transversale, dans de nombreux articles, on voit que le féminisme et les projections qu'il véhicule doivent être tenues de côté, un petit peu à l'écart. Voilà. Donc, en pendant à ces trois catégories-là, je répète, invisibilité du genre du fait de la situation, invisibilité travaillée de la part des sociologues qui adoptent certains comportements de l'autre sexe, ou invisibilité d'une fait d'une dichotomie plus grande, je pense qu'il y a une quatrième catégorie de situation dans laquelle, en fait, la visibilité et l'invisibilité du genre, ou en tout cas les stratégies mises en place par rapport à cela, fonctionnent de concert. Donc j'ai fait trois petits sous-points dans cette quatrième catégorie. Donc il y a le cas où ce n'est plus l'invisibilité qui est recherchée, mais c'est la visibilité du fait qu'on soit un homme ou une femme qui rend possible finalement le fait d'être invisible. Donc je vous donne un exemple, c'est Agnès Jean-Jean qui montre dans son article que c'est le fait de faire la jeune fille, donc je reprends ici son expression, et non pas de gommer ses attributs féminins qui neutralisent sa présence. Ensuite, toujours dans cette quatrième catégorie, il y a le cas où la visibilité de la chercheuse et le fait qu'elle soit une femme permet de mettre en place une autre forme d'invisibilité. Donc Laurence Guyard, qui a fait un travail de terrain sur les consultations gynécologiques, nous dit qu'en fait, comme elle est là et qu'elle est une femme, les patientes ont tendance à la prendre à partie quand elles doivent se plaindre ou quand elles décrivent certains symptômes. Et le fait qu'elle prenne à partie Laurence Guyard parce qu'elle est une femme permet de conserver une forme de neutralité pour le médecin gynécologue. Donc finalement, permet au médecin de devenir invisible ou asexué. Et enfin, le cas où la présence de la chercheuse et le fait qu'elle soit une femme vient ici questionner ou mettre à jour certaines normes de fonctionnement passées sous silence. Donc Geneviève Pruvot, parce qu'elle est une femme sociologue dans la police, se rend compte du travail corporel invisible des policières, que les policières font constamment, donc par exemple ne pas aller très longtemps aux toilettes, ne jamais s'asseoir, des choses comme ça, qui font en fait elles effectuent un travail sur leur corps qui n'est pas visible au premier abord, mais la sociologue s'en rend compte puisqu'elle est elle-même une femme. Et enfin, sa présence permet de mettre au jour certaines normes de fonctionnement. Anne Sauter, de la même façon, dit que si elle doit être un joueur de rugby, le fait qu'elle soit une femme est également un atout car sa féminité perturbe les normes de fonctionnement. Et comme cette féminité perturbe les normes de fonctionnement, elle permet de les révéler et donc de les questionner. Donc finalement, à travers tous ces articles, on sent une espèce de double dynamique entre d'un côté gommer, euphémiser, mais en même temps aussi des fois s'affirmer en tant que femme ou en tant qu'homme. Donc à partir de ces catégories, je me suis posé certaines questions. Donc, comme je l'ai dit, les chercheurs et chercheuses sont nombreux à employer les termes de visibilité, d'invisibilité, de neutralité. Mais finalement, on peut se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'une mise en conformité des expressions de la féminité ou de la masculinité face à certaines normes institutionnelles ou situationnelles. Vous l'avez aussi évoqué dans votre communication. Comme Agnès Jean-Jean le dit, c'est finalement peut-être plus une présence qu'on neutralise qu'un genre. Donc finalement, plutôt que... Il y a certains chercheurs qui disent se créer un genre adéquat, mais finalement, vous vous demandez si on ne parlait pas plutôt de se créer une image de genre en conformité avec les normes qui nous entourent. Donc j'évoquerai juste ici un article d'Amélie Le Renard, dont vous parlez aussi dans l'introduction, qui a été publié il y a quelques années. Et en fait, elle travaille sur les femmes en Arabie Saoudite, et elle nous dit « Ah, au début, j'étais fière de moi, je voyais une espèce d'adaptation, j'avais l'impression que je mettais en place des ruses d'anthropologues et de sociologues. » Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas des ruses de sociologues et d'anthropologues, mais ce que je faisais, les femmes qui m'entouraient le faisaient constamment, et que finalement, je ne faisais que acquérir des compétences qui étaient aussi présentes chez mes interlocuteurs. Donc finalement, des fois, on pense qu'on est très rusé, on pense qu'on est très jeu d'adaptation, mais on adapte aussi, c'est juste des compétences aussi du fait de l'environnement. Voilà. Ensuite, juste une autre remarque, l'ensemble des articles est traversé donc, par l'idée de s'amuser, de neutraliser, de gommer. Et en fait, je trouve qu'il aurait été intéressant aussi peut-être de voir certains terrains dans lesquels on assiste plutôt à une exacerbation de la féminité ou de la masculinité pour se faire accepter. Donc juste avoir quelques exemples de terrains où on n'est pas dans l'euphémisation mais dans l'exacerbation. Et enfin, si on se réfère à la question des corps des chercheurs, et l'article de Laurence Billard nous parle beaucoup de cette histoire de la corporalité du chercheur, je me demandais si on pouvait pas penser à les notions d'invisibilité et visibilité d'une part, avec l'idée de proximité, distance d'autre part. Donc je vais essayer d'expliquer tout ça. Donc finalement, dans certains articles, les chercheurs et chercheuses vont essayer de se rapprocher du corps de leurs interlocuteurs et interlocutrices. Et dans d'autres, ils vont essayer d'éloigner leur corps des interlocuteurs et des interlocutrices, dans l'idée de fluidifier la relation. Et du coup, finalement, je me demandais si on pouvait vraiment parler de neutralité ou de neutralisation du corps. Parce que je ne pense pas qu'on puisse, en tout cas, c'est mon avis, je ne pense pas qu'on puisse prendre son corps neutre, mais plutôt simplement le distancier et le rapprocher de ceux des interlocuteurs et interlocutrices. Dans cette idée de corporalité, mais vous en avez beaucoup parlé, donc ce sera très succinct, je pensais à Donna Haraway avec l'idée de visibiliser la corporalité du chercheur et l'idée de point de vue situé, et du coup on voyait que la tendance générale, mais comme vous l'avez dit, on s'interroge beaucoup sur le terrain, mais finalement les analyses qu'on construit et l'écriture elle passe un peu dans une boîte mystérieuse, dans une cuisine interne. Donc ça c'est une remarque. Et enfin, je voulais juste conclure sur le thème de la sexualité. Donc la sexualité, c'est une question intéressante. Donc, je parle ici de la sexualité potentielle entre l'enquêteur et ses interlocuteurs, l'enquêtrice. Mais évidemment, c'est une question plus difficile à aborder. Et elle est abordée au cours des articles, mais de façon plus édulcorée, on parle plus facilement de séduction. Ou alors, on en parle, mais pour dire qu'on l'a évacué. Encore une fois, on dit, oui, potentiellement, il pourrait y avoir une relation sexuelle, mais vous inquiétez pas, il ne s'est rien passé, on l'évacue tout de suite. Donc, je voulais juste citer Ralph Bolton, qui nous dit, le tabou sur l'implication sexuelle sur le terrain sert à maintenir une limite fondamentale entre nous et les autres, alors que notre objectif en tant qu'ethnographe est de diminuer la distance entre nous. Et donc, à partir de cette citation, je me demandais si finalement cette question de la sexualité, c'est tiré d'un ouvrage qui s'appelle Tabou, donc on peut peut-être parler de tabou sexualité, ne touchait pas une autre forme de question, donc sur les places respectives de la subjectivité et de l'objectivité en anthropologie et en sociologie, et sur la façon dont on construit et manipule l'idée de scientificité dans ces disciplines. J'évoquerai juste la thèse de Marianne Boulon, qui a donc soutenu il y a quelques années une thèse sur les homosexualités masculines dans la ville de Casablanca, et qui, lui, en fait, est un des rares, en tout cas, chercheurs que moi j'ai lus en France, qui nous parle véritablement d'une histoire d'amour, d'une histoire sexuelle qu'il a eue avec un homme sur le terrain. Et il nous montre comment cette histoire d'amour a complètement, lui a permis en tout cas de voir autrement son terrain, d'ouvrir des perspectives différentes sur sa recherche, notamment parce qu'elle lui a permis de remettre en cause des idées préconçues qu'il ne pensait même pas avoir, qu'il n'imaginait pas avoir. Et donc l'idée, le propos de Marianne Bouillon n'est évidemment pas de dire qu'il faut s'exhiber, hein, de tendre vers une forme d'exhibition de l'intimité du chercheur, mais plutôt de dire qu'il ne faut pas passer sous silence certains aspects pour ne pas invisibiliser la position privilégiée du chercheur et donc ne pas reproduire un ordre scientifique hégémonique dans lequel finalement on a l'impression que le chercheur est surpuissant et peut être partout. Donc c'est donner aussi une place au savoir et aux expériences des personnes rencontrées.
Bon, j'enchaîne, ça va être très rapide. Hein. Merci beaucoup Léa. Donc,
merci.
Bon, moi j'aurais juste une double question générale à poser. Et sur le prisme ou les prismes qu'on adopte, enfin auxquels on fait attention. Dans son enquête, hein, les prismes qui nous apportent, et notamment celui du genre dont tu as parlé, et sur la question de la réflexivité. Donc j'ai bien apprécié, puis Léa l'a rappelé, tu l'as rappelé également, le fait que vous-même, les deux auteurs et les chercheurs qui ont répondu à votre invitation, tout le monde a insisté sur le fait que le genre, c'est un prisme parmi ou à côté d'autres, etc. Parmi d'autres appartenances ou parmi d'autres critères comme l'âge, etc. Donc, j'ai une première question alors à ce propos, puisque le genre c'est un critère parmi d'autres, à côté d'autres, etc. Et donc puisqu'on a conscience qu'il y a plusieurs, parce qu'il y a une multiplicité, un entrelacement, un enchevêtrement de critères, pourquoi ne pas parler d'expérience ? Pourquoi est-ce que ne pas parler d'expérience du chercheur, à laquelle articule forcément toutes ces appartenances et tous les critères dont on vient de parler. Et donc, mais pourquoi ne pas mettre en avant justement l'histoire du chercheur qui lui permet d'articuler toutes ces appartenances et tous ces critères dans la production de connaissances. Et ça m'amène à la question donc de la réflexivité, sur laquelle, à juste titre, tu insistes beaucoup aussi, enfin vous, les deux auteurs, insistez beaucoup dans l'introduction. La question, c'est quel est le moment de cette réflexivité, ou quelle est l'étape du travail où la réflexivité du chercheur peut intéresser la fabrication même de la connaissance. Alors, les contributions, donc tu l'as rappelé, Anne, pour le regretter, aborde essentiellement la réflexivité à travers le prisme du genre, puisque c'était la commande principale, mais aborde cette réflexivité dans la situation même de l'enquête en train de se faire. Et ça, tu l'as regretté, tu l'as rappelé dès ton introduction au livre et à cette communication. Alors ça, effectivement, le faire dans la situation d'enquête, c'est indispensable, c'est nécessaire pour la qualité même du matériau recueilli, pour montrer sa qualité, sa pertinence, pour la manière même d'engranger ce matériau, pour l'art de savoir se positionner, d'ajuster, etc., de se poser là. Donc tout ce qui est magistralement montré par les uns et par les autres dans l'ouvrage. Mais au-delà de ce moment de l'enquête, la réflexivité, elle doit se mettre au service de quoi ? C'est la question que j'avais envie de poser. Et là, si j'en reviens donc à la notion d'expérience du chercheur, il me semble que sa prise en compte globale oblige, le sentiment de sa nécessité de sa prise en compte, oblige davantage à faire attention à ce qu'on est en train de faire à toutes les étapes de la recherche et jusqu'à l'exploitation du matériau, jusqu'au refaçonnage éventuel et même certain de l'objet, sans parler du travail d'écriture. Donc le problème de réfléchir seulement ou essentiellement à la relation d'enquête, comme l'ont fait beaucoup des auteurs, sans aller au moins jusqu'à l'exploitation du matériau recueilli à l'occasion des différentes enquêtes, présente deux risques selon moi. Le premier, c'est de rester finalement très spéculatif, et je vais y revenir avec un exemple. Et c'est le risque aussi, du coup, par la même occasion, d'égocentrer la réflexion. hein, c'est-à-dire le risque de se regarder travailler, si on ne s'attache pas à montrer en quoi cette auto-analyse de son travail de recherche, comment est-ce que cette auto-analyse nous amène concrètement, qu'est-ce que cette auto-analyse nous amène concrètement à produire en termes de connaissances, hein, c'était la question. Vers quoi je tire mon matériau, pourquoi je l'ai tiré vers là, en quoi mon expérience oriente mon regard, ce qui fait que malgré, ce qui ferait que malgré justement des recoupements absolument évidents, deux chercheurs travaillant sur le même objet n'auraient pas les mêmes résultats, enfin ne mettraient pas en avant, ne tireraient pas les mêmes fils, tout simplement. Donc ça arrive là, justement, avec l'exemple dont tu as parlé, c'est Pierre-Noël Deniol, hein, je crois, Pierre-Noël. Alors, bon, lui travaille sur les femmes entrepreneurs en Tunisie, il explique qu'il est à la fois étranger et homme, travaillant donc dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue, pas l'arabe, et puis auprès de femmes, donc. Et alors, donc, il explique comment il est embêté d'être un peu à la merci de son interprète qui est en même temps une étudiante qu'il forme aux méthodes de recherche. Donc ça, c'est assez amusant. Et puis après, il dit finalement, je pense que le fait d'être étranger et homme, bon, il explique pourquoi, je ne vais pas rentrer dans les détails, permet finalement de la part des interlocutrices, hein, les femmes entrepreneurs, une parole plus détendue. Hein, parce que une parole plus détendue, donc d'engranger un certain type de matériaux, etc. Bon, ben oui, bien sûr, pourquoi pas, c'est là que c'est très spéculatif. Parce qu'on pourrait très bien dire aussi que, ben, qu'une femme pas étrangère, proche, etc., ben, du fait de la complicité, de la non-extranéité, ben, elle retire aussi du matériau tout à fait valable, etc. Ça ne va pas être tout à fait le même, quoi. Donc voilà pour le côté un peu spéculatif de la chose. Donc les deux assertions seraient tout aussi vraies qu'invérifiables. Et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'on n'est pas dans une science exacte, hein. On s'en fiche que ça soit invérifiable. Mais seulement, réfléchir uniquement au moment de l'enquête, ça nous oblige à émettre des hypothèses qui finalement nous amènent à quoi? C'est ça la question que je me pose. Ou alors, il y a des évidences. Travailler au moment de l'enquête sur le genre ou sur... peut nous amener à dire, ça, par exemple, le fait d'être une femme m'empêche d'avoir accès à telle... Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est évident. C'est un résultat dès le moment de l'enquête, quoi. Ou le fait d'être un homme me permet ou m'empêche, quoi. Donc, l'autre exemple du même auteur, là, de Pierre-Noël Deniol, il montre le caractère invérifiable de ces hypothèses. Il suppose aussi, alors là par contre, lui, il va jusqu'à l'exploitation de son matériau, mais c'est pour supposer que c'est parce qu'il est homme, peut-être, qu'il a été plus attentif au rôle des pères dans l'encouragement à la formation supérieure de leurs filles, plutôt que de faire attention au rôle des mères, ce qu'on lui a reproché, parce que les Tunisiennes lui ont reproché. Mais moi, il se trouve que je suis une femme, et j'ai observé exactement la même chose au Maroc. C'est effectivement, j'ai observé que les pères encourageaient la formation des femmes. Et comment j'ai pu l'observer? Pas parce que je suis une femme, mais parce que c'était dans les entretiens recueillis, quoi. Et que, voilà, à force de recoupement d'un entretien à l'autre, le résultat était là, et il fallait juste y faire attention, parce que c'est un résultat très paradoxal et très inattendu, qui peut être riche de conséquences pour la société elle-même, le rôle des pères aujourd'hui dans l'encouragement des femmes à sortir. Donc, je ne veux pas prolonger, c'était juste un petit peu, juste pour la rappeler. Mais la question finale, ça serait finalement, tu as dit que vous ne feriez pas le même ouvrage aujourd'hui. Quelle serait votre commande à ce moment-là, aujourd'hui, auprès des auteurs, si jamais vous aviez à refaire la même... le même exercice. Alors j'ai dit tout ça parce que Léa a dit tout le monde. Bon, je veux dire, je ne suis pas passée la pommade. Évidemment que c'est un ouvrage indispensable et tout à fait intéressant, tout à fait bienvenu. Mais voilà, c'est quelques petites frustrations comme certains de tes lecteurs.
Ben, je vous remercie. Je vais peut-être répondre à la dernière question parce qu'après, il y a des choses qui sont un peu en écho, en fait, hein, Sur qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce qu'on ferait maintenant ? Alors, déjà, il faudrait qu'on rediscute avec Catherine, mais en tout cas, moi, ce que je ferais maintenant, d'abord, effectivement, j'intégrerais beaucoup plus la dimension sexualisée, genre sexualité, et également ce qu'on me reproche aussi, c'est transgenre, etc. Parce que même dans mes encadrements d'étudiants, j'ai ces sujets qui sont arrivés aussi, qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. C'est-à-dire là aussi, moi aussi, j'avance dans la carrière. J'ai des doctorants, des masters que j'encadre, et les sujets évoluent. Donc là aussi, mon propre regard sur les sujets évolue parce que le contexte aussi évolue. Donc je pense que je serais amenée sans doute à modifier, à intégrer des dimensions qui n'étaient pas présentes. Également parce que je pense aussi que les générations, et peut-être nous-mêmes avons changé, c'est que dans les consignes qu'on me donnait à l'époque, je ne suis pas sûre que maintenant certains délaisseraient certaines de nos consignes. Je pense qu'elles seraient maintenant intégrées parce que on a digéré aussi. Et une chose qui m'a frappée dans ce que tu as dit, c'est la question de l'expérience du chercheur. Il y a encore quelques années, on parlait pas en ces termes. C'est vrai que le terme expérience est à la mode, mais il n'est pas à la mode de façon... il a un sens. C'est-à-dire que cette mode a un sens. Et je pense qu'elle tient aussi à l'effet HDR, par exemple pour nous, un certain, c'est-à-dire qu'on est rentré dans la carrière avec cette idée aussi de repenser et d'avoir ce retour sur ce que l'on fait. Et ce retour sur ce qu'on fait va nous amène à justement là aussi à faire un arbitrage, c'est-à-dire jusqu'où va la restitution de mon autobiographie ou mon auto-analyse. Et ça pose aussi la question de la nécessité, finalement, notre sujet ou notre problème, c'est finalement la recherche. Et donc, on se pose la question de l'apport de la recherche. Qu'est-ce qu'on apporte ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte en plus ou pas de restituer notre autobiographie ou le fait, justement, d'être une femme, un homme, etc. Et je pense que tout ça ne prend de sens qu'en fonction du contexte, c'est-à-dire que, et en fonction d'une forme de revendication aussi. C'est vrai que, quand j'ai fait l'exercice de la GER, pour revenir sur mes propres travaux, c'est vrai que je suis revenue sur cette question de dire, d'essayer de chercher pourquoi je m'étais intéressée aux femmes, et d'où ça venait, mais d'où ça venait pas seulement des filiations intellectuelles, parce qu'il y a des filiations intellectuelles féminines, mais aussi des filiations du côté de ma famille, c'est-à-dire quelle place ont les femmes et qu'est-ce que ça a interrogé, ces femmes-là, m'a permis d'interroger. Après, va se poser la question de la restitution. Alors je sais que, et ça fait partie des discussions, c'est est-ce que, et c'est le sens aussi que l'on donne à la recherche, est-ce qu'il y a nécessité, est-ce que ça change quelque chose de ne pas restituer notre propre réflexivité par rapport à un cheminement qui est d'ailleurs de l'ordre pas seulement du subjectif, parce que tu évoquais aussi cette question de l'objectivité et du subjectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ces catégories et en quoi elles sont importantes dans la restitution du travail, c'est-à-dire jusqu'à notre écriture. Mais même je me suis posé la question, est-ce que j'écris féminin ou pas moi ? Et si j'écris féminin, est-ce que ça se voit ? Puis quel intérêt finalement de dire que j'écris féminin ? Enfin, il y a un moment donné, on va se poser ce type de questions, ou on peut être amené à se poser, parce qu'aussi ça me fait plaisir de me poser ce type de questions, pour voir quels sont ça, et est-ce que ça a un intérêt d'avoir une écriture féminine ou masculine ou neutre ? Par contre, le neutre me gêne plus, parce que finalement, et pour revenir aussi à tes questions, je trouve que c'est intéressant aussi toute ton analyse d'invisibilité, visibilité et de neutralité, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas de neutralité sur le terrain. c'est à un, enfin à mon avis, il n'y a pas de neutralité. Qu'on essaie de neutraliser, je veux bien peut-être, mais par contre, ce qui m'intéresse, à mon avis, et c'est ça le travail de réflexivité, c'est d'avoir la conscience de nos biais, quoi. Parce qu'en fait, il y a toujours, il y a pas de neutralité, et donc il y a toujours des biais. Sauf que les biais, ils sont contextualisés aussi. Et ce qui...
Mais pourquoi les appeler des biais ?
Oui, non, mais oui, on les appelle des biais par défaut. C'est-à-dire que comme toute, enfin, pour effectivement. Mais je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Pourquoi on appelle ça des biais ? C'est en fait ce qui participe de l'enquête. Alors on pourrait ne pas parler de biais et dire de qu'est-ce qui participe de l'enquête et qu'est-ce qui participe de la dynamique d'enquête.
Oui.
C'est ça, des interactions de l'enquête. Je dis biais parce que c'est peut-être aussi les catégories que j'ai eues quand j'avais des cours où on disait bah attention, il y a des biais. C'est peut-être c'est les leçons et c'est le vocabulaire utilisé même dans peut-être dans les manuels où il y a attention aux biais. Alors là, oulala, danger, il y a des biais. Là, c'est mauvais, les biais. Mais en fait, les biais, ils ne sont pas mauvais. Ils sont, font partie de la dynamique du rein. Et puis, effectivement, c'est pas pertinent. Par contre, ce qui est pertinent, c'est qu'est-ce qu'on restitue de la dynamique, de la dynamique et comment ça participe aussi de l'analyse et de l'écriture. Mais c'est vrai aussi que je pense que l'exercice est difficile. Et également dans le, je l'ai pas dit là, mais une des volontés du volume, c'était d'avoir aussi des contributeurs de statuts différents et donc aussi d'expériences de carrière, pour dire des différentes. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes. Il y a des jeunes, il y a des gens plus installés dans la carrière, etc. On va pas avoir aussi, d'abord on n'a pas les mêmes bagages, et c'est normal. Et donc on va pas analyser de la main, et nos positions sont peut-être moins claires au départ. Par contre, après, peut-être en avançant, on s'affirme plus et on parle plus de biais, même si là, je l'évoquais, en écho avec l'idée de neutralité, quoi. Parce que même ça, c'est vrai qu'on faut être neutre. C'est comme si on était hors que l'enquêteur est hors de quelque chose, mais il est dedans. C'est pour ça que c'était aussi notre volonté quand on a fait ce plan, enfin ce choix de relations sociales, c'était aussi pour ça. Enfin, c'était aussi une façon de dire que le chercheur, il est pas hors quelque chose. Peut-être qu'il est chercheur, enfin enquêteur, ou informateur, enfin pas informateur, au contraire, en relation avec des informateurs. Là aussi, tout le vocabulaire qui est revu et corrigé. Comme le terme de restituer, on restitue quoi ? À qui ? Ça pose un problème aussi, le terme de restituer. Mais ça fait partie du vocabulaire, on va dire, de langue de bois. On comprend, on dit, ah ben, on restitue. Mais restituer, ça veut dire qu'on a pris quelque part. Donc on rend quelque chose. Est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on nous donne ? Enfin, ça pose la question de l'échange sur le terrain en général. Et de comment on gère une relation, justement, avec des interactions. Donc c'est aussi... voilà, ça pose la question aussi, l'autre question qui en écho avec l'exposé, c'est cette question, et qui renvoie aussi à la question du corps, etc., c'est que la subjectivité, c'est pas l'intimité, enfin, dans la recherche. Non, en tout cas, quand on parle de ce rapport objectif, subjectif, etc., c'est... Qu'est-ce qu'on met derrière la subjectivité ? Et la subjectivité, est-ce que c'est un soi que l'on construit, c'est-à-dire ce soi chercheur, etc., ou est-ce que c'est l'intimité du chercheur ? Et cette intimité, c'est quoi ? C'est aussi l'idée de professionnel, ces catégories des sphères, sphère professionnelle, sphère privée, sphère intime, c'est pas tout à fait, voilà. Donc, qu'est-ce qui va l'un dans l'autre? Comment ça se construit? Et effectivement, la question, c'est pas tellement de dévoiler l'intimité, ou je sais pas, c'est de poser la question, quel sens ça a par rapport à ce que je veux de cette recherche-là, et de comment elle participe d'une dynamique et surtout d'une réflexion. C'est pour ça aussi que chaque chercheur sur un même objet va peut-être dire des choses différemment. Et en vous écoutant, ça m'a fait poser aussi ça me permet d'interroger un autre problème sur la question de la personnalité du chercheur. Est-ce que la personnalité joue? C'est encore une autre dimension du personnel, de l'intime. Et c'est quoi ça? Donc là, moi, il me semble que ce que. Et c'est aussi révélateur de la question sur la réserve, l'exhibition, allez, on doit avoir d'autres exemples qui vont plus loin dans. Voilà. Mais ça pose aussi la même question. C'est-à-dire, est-ce que c'est se mettre, enfin, être dans des milieux un peu plus. Ou soi-même être plus comme chercheur, plus exhibitionniste, ou dans l'exhibition, etc. C'est. Est-ce que ça pose la question de la recherche et de la façon dont on, entre guillemets, on joue, pour reprendre Goffman, etc. Ou est-ce que finalement on est acteur dedans, ou est-ce que c'est aussi lié à notre part de personnalité? C'est-à-dire que est-ce que notre personnalité ne joue pas aussi dans la construction de notre recherche? Et pas seulement. Donc c'est des parts. C'est des parts de. Finalement, très intimes. Et en même temps, c'est aussi. C'est pour ça que je parle de personnalité, parce que c'est aussi ce que l'autre perçoit de vous. Ouais. Donc, de la relation à l'autre. Donc, et donc de la relation sociale. Et donc de l'interaction. Enfin, bon. Sauf que le problème, c'est jusqu'où on va. Et qu'est-ce que ça. Alors juste également aussi, suite à ton exposé, je trouvais intéressant, c'est donc cette question de biais, mais aussi, a été évoqué par Yolande, c'est dans l'enquête, le tiers, l'effet du tiers. Vous êtes toutes les deux à avoir évoqué l'effet du tiers, c'est-à-dire, et là aussi, au-delà du genre, etc., et on voit bien notre discussion, elle est aussi au-delà du genre. C'est-à-dire que finalement, le genre nous ramène aussi à des questions beaucoup plus globales, plus générales sur l'humain, d'une certaine manière aussi. Donc le genre nous ramène à l'humain. Mais comme je ne sais pas si j'ai.
Non, c'est parfait, mais tu sais, je pense que.
Ça me dérange si on laisse.
Pas du tout, mais.
Donc,
Ah oui, juste une petite chose quand même, parce que ça participe de. Par rapport à ce que disait Yolande, c'est vrai qu'une chose, il me semble importante dans le travail, et c'est pour ça que. En anthropologie, ça fait partie des principes, c'est la comparaison. Et par exemple, quand tu parlais de toi et de l'exemple de Pierre Noël, c'est vrai que peut-être ce qui manque, c'est la comparaison. Pour pouvoir dire ce que tu viens de dire, c'est que tu as eu les moyens de comparer, parce que lui a dit ça, et que toi, tu as ton terrain, et que tu compares. Et qu'il y a aussi une pertinence qui arrive de la comparaison.
Bien sûr. Oui, mais non.
Voilà, c'est pour ça que. Mais c'est... Et évidemment, le bouquin aussi, je voulais dire, c'est pas un bouquin de recettes. Il n'a pas du tout été pensé comme ça. Pas du tout.